La Galatrice, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, très chers amis, recevez tous mes sincères et chaleureuses salutations dans le tout-puissant, magnifique et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, nous bénissons le Très-Haut pour ce merveilleux privilège qui nous accorde une fois de plus de passer un peu de notre temps dans sa sainte présence. Et c'est tout à fait normal puisque il est écrit qu'un tout petit instant dans la sainte présence du Seigneur vaut mieux que mille ailleurs. Donc rassurez-vous, vous avez vraiment très bien fait d'être à l'écoute, surtout à partir de ce moment même. Comme vous l'avez écouté, c'est bel et bien votre très chère émission, l'heure de la vérité. Et nous allons vraiment partager la sainte parole de Dieu vivant en esprit et en vérité. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'avoir un stylo parce que c'est important de noter tous les versets bibliques qui seront donnés à partir d'ici, afin que votre foi soit fondée uniquement sur la sainte parole du Dieu vivant, et non sur la sagesse des hommes, et non sur les doctrines des hommes. Oui, parce que nous allons aborder une série d'enseignements concernant les fausses doctrines. Et c'est important que vous puissiez noter tout ce qui sera dit à partir d'ici. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce nouveau jour que tu nous as donné de voir jusqu'à cette heure-ci. Merci pour ta divine protection, ton souffle de vie. Merci pour tous ces auditeurs, toutes ces auditrices qui sont en train de m'écouter. Seigneur, je te consacre ce moment afin que tu prennes le total contrôle, que ton esprit, l'esprit de vérité, puisse vraiment se manifester puissamment. Et que, Seigneur, il n'y ait point de mauvaise interprétation ou la mauvaise compréhension de ta sainte parole. Seigneur, bénis ta sainte parole. Bénis tous ceux-là qui sont en train de m'écouter en ce moment, où qu'ils se trouvent. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es au total contrôle. Que toute la gloire te revienne. Amen. Oui, vous êtes bel et bien à l'écoute de l'heure de la vérité. Derrière ce microphone, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur. Oui, je disais tantôt que nous allons aborder une série d'enseignements concernant les fausses doctrines. Le constat est clair. Par exemple, dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset, nous pouvons lire ceci. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Dans cette portion de Sainte Écriture, la Bible nous dit que pendant la fin des temps, les hommes vont se détourner de la vérité pour se tourner plutôt vers les fables. Qu'est-ce que c'est que les fables? Les fables, c'est tout simplement le produit de l'imagination de l'homme. Et en ce qui concerne Dieu, on a vraiment enseigné des fables. On a pratiqué beaucoup de choses qui n'ont pas de fondement biblique. Et c'est ce que par la grâce de Dieu, nous allons voir. Et toujours dans Timothée, cette fois-ci au chapitre 3, la première épître de Paul à Timothée. Oui, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, où il est écrit. Si nous lisons à partir du verset 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. La Bible nous dit ici que l'église du Dieu vivant est censé être la colonne et l'appui de la vérité. Donc, si les hommes ont besoin de trouver la vérité sur la terre, ils doivent s'adresser à l'Église. Ils doivent trouver cette vérité à l'Église. Ils doivent trouver cette vérité chez les chrétiens, chez les enfants de Dieu. Mais le constat est clair. Malheureusement, beaucoup d'Églises et beaucoup de chrétiens eux-mêmes vivent dans le mensonge et enseignent les doctrines mensongères. L'Église du Seigneur n'est plus cette colonne et l'appui de la vérité. Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, Apocalypse chapitre 3, le verset 20, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. » On peut lire ce verset et traverser sans remarquer beaucoup de choses. Jésus dit qu'il est à la porte. Il est en train de frapper. Mais lorsqu'on lit clairement le contexte, le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'adresser à l'Église. Comment se fait-il que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ qui est le fondateur de l'Église, qui est le chef suprême de l'Église, soit plutôt dehors en train de frapper? Parce qu'on l'a jeté dehors, on l'a poussé hors de l'Église. Donc c'est normal que quelqu'un qui se dit chrétien ait jeté son Seigneur hors de sa maison, hors de sa vie. C'est possible qu'une assemblée, qu'une église ait jeté le fondateur de l'église, Jésus, hors de l'église. Comment se fait-il que l'église, Jésus qui devait être assis sur son trône dans l'église en train de régner, soit plutôt dehors en train de frapper? Et il dit que si on ouvre, il entrera. Pour dire que si on n'ouvre pas, il partira. Donc, ce n'est pas certain que l'on ouvre au Seigneur, ce qui est tout à fait regrettable. Que le Seigneur soit encore en train de frapper pour entrer, alors qu'il devait être plutôt à l'intérieur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous allons commencer par le salut, le chemin du salut. Dans le mot salut, nous voyons sauver. Oui, quand on parle du salut, on parle de le fait d'être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de nos péchés. Sauvé de la malédiction. Et surtout sauvé du jugement et de la condamnation à venir, surtout de l'étang de feu. Et le chemin du salut. Par rapport au salut, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, il est écrit. Car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Si c'est le nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chers auditrices, vous tous qui m'écoutez, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné sous les cieux par lequel nous devions être sauvés. Malheureusement, sur la terre, beaucoup cherchent le salut dans beaucoup de noms et dans beaucoup de chemins. Beaucoup veulent être sauvés en suivant des prophètes, des saints et des coutumes, des traditions de tout genre. Alors que la Bible est claire et formelle, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Et ce nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous cherchez le salut en dehors du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes perdu pour l'éternité. Oui, Jésus est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Et la Bible nous dit que quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Si vous voulez être sauvé, invoquez le nom du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui seul qui est mort pour nos péchés à la croix. Et Jésus, en mourant à la croix, a porté mes péchés, a porté vos péchés. Et si vous croyez en lui, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour vous. Parce que Jésus a été déjà condamné à votre place. Et dans Actes des Apôtres, toujours chapitre 2, je vais un peu lentement afin que vous puissiez relever et vérifier par la suite. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 37 et 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 37 et 38. Nous pouvons lire ceci. C'est le jour de la Pentecôte. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Oui, nous sommes au verset 37 de Actes chapitre 2. La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, il y avait des multitudes à Jérusalem qui sont venues à la fête de la Pentecôte. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples du Seigneur, ils ont commencé à prêcher. Et l'apôtre Pierre était le porte-parole. La Bible nous dit que ceux qui étaient là ont écouté son discours. La Bible nous dit que, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit, hommes frères, que ferons-nous? Voilà une question très très importante. Que ferons-nous? Et la réponse de Pierre est très très édifiante. Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà la réponse de Pierre. Repentez-vous. On ne peut pas entrer au paradis sans se repentir, c'est-à-dire sans confesser ses péchés et abandonner ses péchés. On ne peut pas devenir un enfant de Dieu sans décider de se repentir, de renoncer au mal, au péché sous toute ses formes. Ça, c'est le chemin royal qui mène au paradis, qui mène au ciel. Beaucoup veulent entrer au ciel, beaucoup veulent être sauvés, mais ils ne sont pas prêts à se repentir. Ce n'est pas du tout possible. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est curieux, c'est que l'apôtre Pierre n'a pas répondu, je suis le chef de l'église. Jésus m'a établi comme chef. Et il a dit que je suis Pierre et que sur cette pierre, il bâtira son église. Donc si vous voulez être sauvé, il faut venir chez moi. Il faut me suivre parce que je suis le chef. Je suis le chef de l'église. Oui, parce que beaucoup disent que Pierre a créé une église sur cette terre. Et que si vous voulez être sauvé, il faut être dans cette église de Pierre. Voilà Pierre lui-même qui n'a jamais demandé aux gens de le suivre ou de venir dans son église. Mais il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre n'a pas dit, venez dans notre religion. Oui, parce que beaucoup présentent et prêchent que les religions aux hommes. Beaucoup convertissent les gens qu'à leur religion. Alors qu'il n'y a aucune religion sur la terre qui peut sauver. Oui, que ce soit vraiment très clair. Il n'y a aucune religion sur cette terre qui peut sauver. Les religions ce sont les créations des hommes. Il n'y a qu'un seul chemin du salut, le Seigneur Jésus, en passant par la repentance, en croyant en lui et en se baptisant en son nom. D'ailleurs, Dieu le permettant, nous allons également parler du baptême, mais nous, pour le moment, nous sommes sur le chemin du salut. Dans Jean chapitre 14, l'évangile de Jean chapitre 14, les versets 13 et 14, nous pouvons lire ceci. Oui, l'évangile de Jean chapitre 14, les versets 13 et 14. C'est Jésus qui dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ dit ici que si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Comment se fait-il alors que les gens laissent le nom du Seigneur Jésus-Christ pour demander en d'autres noms? Pourtant, Jésus dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Oui, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous donne accès au trône de Dieu pour recevoir quoi que ce soit. Malheureusement, sur la terre, on invoque les anges. On invoque même Marie. Très chers auditeurs, très chères auditrices, Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ est suffisant. Si vous invoquez ce nom pour demander quoi que ce soit, lui-même il a promis qu'il agira, il le fera. Nous sommes en train de dénoncer les fausses doctrines. Ne laissez pas le nom du Seigneur Jésus-Christ pour invoquer d'autres noms. Vous ne pouvez pas être exaucé si c'est vraiment le Dieu vivant en dehors de Jésus-Christ. Et dans Colossiens chapitre 3, le verset 17, nous pouvons lire ceci. Colossiens chapitre 3, le verset 17, il est écrit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible est claire. Dieu nous invite à tout faire, en parole et en acte, uniquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Nous allons rester dans la parole du Dieu vivant. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8 au verset 10. Je tiens à vous dire que vous pouvez intervenir en direct si vous le souhaitez. Sentez-vous libre d'intervenir. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Oui, allô? Allô? Pouvons continuer. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 10. Je vais lire pour nous tous. Il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible est claire et formelle. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc sur la terre, beaucoup pensent qu'ils peuvent être sauvés en faisant des bonnes actions. Je vais m'adresser particulièrement à beaucoup d'amis dans cette ville et même un peu partout qui pensent que c'est en faisant beaucoup de bonnes œuvres, c'est en jeûnant beaucoup, c'est en priant beaucoup. Toutes ces choses-là sont des bonnes choses. Mais la vérité, c'est que tout cela ne peut pas nous donner le salut. Beaucoup pensent que c'est en marchant tellement sous le soleil, en distribuant des tracts, des brochures et en invitant les gens dans les religions qui seront sauvés. Toutes ces choses-là ne peuvent point donner le salut. Si on pouvait être sauvé par les bonnes œuvres, Jésus serait mort en vain. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir si nos œuvres pouvaient nous sauver? La Bible nous dit que c'est par la foi uniquement en Jésus-Christ. Donc personne ne peut se vanter d'avoir mérité son salut. La Bible dit que c'est un don gratuit. La seule chose qui nous reste à faire, c'est recevoir ce don par la foi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es déjà mort pour moi à la croix. Je me repens de mes péchés, je t'accepte. Voilà, par la foi. Et vous êtes pardonné quand vous faites une prière sincère avec un engagement ferme. Dieu vous pardonne en Jésus-Christ et écrit votre nom dans son livre de vie et vous devenez enfant de Dieu. Oui, aucune religion ne peut nous sauver, même pas nos bonnes œuvres. Que ce soit vraiment clair dans nos pensées, une fois pour toutes. Je relis, il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 10. Et verset 10, maintenant, qu'est-ce qu'il est écrit? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible nous dit que Dieu lui-même a déjà préparé des bonnes œuvres pour ses enfants. Donc les enfants de Dieu ne pratiquent pas les bonnes œuvres pour être sauvés. C'est parce qu'ils sont sauvés qu'ils pratiquent les bonnes œuvres. Moi, je ne pratique pas les bonnes œuvres pour mériter le salut. Je suis déjà sauvé le jour que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Mais c'est parce que je suis sauvé que j'ai fait les bonnes œuvres pour ressembler à mon Dieu, à mon Créateur. Oui, c'est pour dire que si quelqu'un dit qu'il est sauvé, qu'il est enfant de Dieu et il ne pratique pas les bonnes œuvres, ça n'a pas de sens. Car la foi sans les œuvres est morte. Mais on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la foi. Et cette foi maintenant engendre les œuvres. Que celui qui a vraiment des oreilles pour entendre, entende. Nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 14, le verset 6. L'évangile de Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Ça, c'est Jésus lui-même en personne ici qui parle. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne dit pas qu'il est un chemin parmi les chemins. Il ne dit pas qu'il est une vérité parmi les vérités. Mais le chemin, il utilise l'article défini là. Donc il n'y a qu'un seul chemin qui mène au paradis, qui mène à Dieu, qui mène au salut. Il n'y a aucun prophète en dehors de Jésus qui peut donner le salut. Il n'y a aucun ange. Il n'y a aucune coutume, aucune tradition, aucune religion sur la terre. C'est Jésus le chemin. Donc si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se peut que vous soyez sur le chemin de la perdition. Mais vous pouvez, à partir de ce moment même, ouvrir vos cœurs à accepter le Seigneur Jésus qui est le chemin, qui mène à Dieu, qui mène au paradis, qui donne le salut. Et tout cela gratuitement. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Et je profite également pour m'adresser à certaines personnes qui en ce moment sont en train de jeûner. Ce sont des gens que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis parmi eux que j'apprécie particulièrement. S'il vous plaît, si vous voulez être sauvé, Jésus est le chemin. Ça, ce sont les déclarations du Seigneur Jésus. Il a dit qu'il est le chemin. Vous ne pouvez pas être sauvé par vos bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas être sauvé parce que vous jeûnez beaucoup ou parce que vous priez beaucoup. Ça fait mal de comprendre ces choses, mais c'est la vérité. Nous sommes là pour dire la vérité. Ce qui peut amener les gens à être sauvés. Parce que ce qui sera regrettable, c'est que après avoir beaucoup jeûné sur la terre, après avoir fait des bonnes œuvres, en espérant trouver le salut au travers de ces choses, et que le dernier jour, Dieu vous dise, je ne vous connais point. Tout simplement parce que vous n'êtes pas passé par le chemin qu'il a tracé pour être sauvé. Et ce chemin, c'est Jésus. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés à la croix. Oui, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. ce n'est pas normal que vous faites des bonnes œuvres, que vous priez beaucoup, que vous jeûnez beaucoup et que vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 16, que le Saint-Esprit témoigne dans le cœur de cette personne qui a accepté le Seigneur Jésus qu'il est un enfant de Dieu. Donc ce n'est pas après ma mort que Dieu va décider là où je vais partir. Ce n'est pas après ta mort que Dieu va décider là où tu vas partir. C'est maintenant que tu dois savoir exactement où tu dois partir après ta mort. Et c'est possible de le savoir en croyant au Seigneur Jésus. La Bible nous dit que le Saint-Esprit témoigne dans le cœur du croyant qu'il est un enfant de Dieu et qu'il n'y a plus de condamnation pour lui. Donc si quelqu'un n'a pas l'assurance de son salut, ce n'est pas normal. Il se peut que cette personne n'ait pas encore vraiment reçu la grâce de Dieu, le pardon de Dieu et le salut de Dieu dans son cœur. Dans Ésaïe 64, le verset 5, nous pouvons lire ceci. Ésaïe 64, le verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. La Bible nous dit que toute notre justice aux yeux de Dieu est comme un vêtement souillé. Donc personne ne peut prétendre se tenir devant Dieu et dire « Je suis sauvé parce que je suis juste, parce que j'ai fait des bonnes actions, parce que j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné. » Personne ne se tiendra devant Dieu en prétendant être sauvé de cette façon. Parce que Dieu dit que lorsque l'homme croit qu'il est tellement juste, qu'il a tellement fait des bonnes œuvres, Dieu regarde toujours, il revoit des souillures dans ces choses-là. La Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc notre justice au point le plus élevé. Parce que la racine du mal est dans notre cœur. C'est pour cette raison que Dieu a décidé de donner le salut gratuitement. Parce que c'est tellement cher que personne ne peut l'acheter. Et il l'offre gratuitement. C'est un don de Dieu. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pas en un prophète, pas en une religion. Aujourd'hui, il y a la guerre de la religion. Les gens se disputent qui a la meilleure religion. C'est notre religion, c'est nous. Non. Même si vous pensez que vous avez la meilleure des religions, la vérité c'est qu'aucune religion ne peut sauver. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous écoutez toujours l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Dans acte 2 de tout à l'heure, dans notre acte 2 à partir du verset 37 de tout à l'heure, nous allons nous intéresser une fois de plus à ce qui a été dit dans ces versets par l'apôtre Pierre. Nous sommes au verset 38. Pierre l'a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Baptisé. Il a également recommandé le baptême au nom du Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons aborder le baptême, puisqu'on ne peut pas parler de foi, du christianisme sans parler du baptême. Et également concernant le baptême, nous allons voir la lumière de la sainte parole du Dieu vivant qu'on a enseignée. Des faussetés. Et ouvrez grandement vos oreilles et surtout relevez tous les versets bibliques pour vérifier par la suite. Dans Marc chapitre 16, les versets 15 et 16, il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ dit « Allez partout dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc nous voyons que le baptême, c'est une institution divine. Ce n'est pas un homme qui a inventé le baptême. Le baptême n'est pas sorti dans la tête d'un théologien. C'est Jésus qui a recommandé que tous ceux qui vont croire en lui, qui seront baptisés, seront sauvés. Donc, là, nous sommes suffisamment éclairés à savoir que le baptême est biblique. Dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 4 au verset 10, nous allons nous intéresser à la première personne qui a commencé à baptiser sur la terre, à savoir Jean-Baptiste. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 4 au verset 10. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant les péchés, il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. » Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc nous voyons le prophète Jean-Baptiste, le premier à baptiser sur la terre. Et en lisant ce qui se passait autour de lui, nous pouvons quand même remarquer beaucoup de choses. La Bible nous dit que les gens venaient confesser les péchés et se faisaient baptiser par lui. Donc ils confessaient les péchés avant de se faire baptiser. Cela revient à dire qu'en réalité, on ne peut pas se baptiser si on ne s'est pas repenti, si on n'a pas confessé ses péchés. Et après s'être baptisé, on doit maintenant mener une vie qui glorifie Dieu pour montrer que on est vraiment devenu un enfant de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Jean-Baptiste va reprocher aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes, en disant, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, il les exhortait vraiment à produire du fruit digne de la repentance. Parce qu'ils venaient tout simplement se faire baptiser pour montrer aux gens que eux aussi, ils sont des croyants. Alors que, dans leur cœur, il n'y avait point Dieu. C'était les hypocrites. Et, si nous étudions tous les versets qui parlent du baptême, particulièrement la condition pour être baptisé, à savoir croire, nous pouvons déjà dire que, en réalité, on ne devrait pas baptiser les enfants. Oui, beaucoup vont être surpris de comprendre ces choses, parce que la condition pour se baptiser, c'est croire. Et les enfants ne peuvent pas croire. La condition pour se baptiser, c'est se confesser. Et les enfants ne peuvent pas du tout le faire. Les bébés ne peuvent pas du tout le faire. D'ailleurs, 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21 va confirmer. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 3, verset 21, va dire que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et nous sommes tous d'accord que les enfants ne peuvent pas s'engager avec une bonne conscience. Les bébés ne peuvent pas s'engager avec une bonne conscience. Revenons à la parole de Dieu. Je suis là en train de dénoncer les fausses doctrines. Et concernant les enfants, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit et a fait? Par exemple, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 13 au verset 16, l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 13 au verset 16, la Bible nous dit que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et lorsque les petits-enfants venaient à lui, il priait pour eux et il les bénissait, tout simplement. Il ne les baptisait pas. On doit prier pour les enfants. On doit les bénir. Mais on ne doit pas les baptiser. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et les bébés ne peuvent pas s'engager avec une bonne conscience. Et dans Proverbe, maintenant je suis en train d'attirer l'attention des parents. Les responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Dans Proverbe chapitre 22, le verset 6. Oui, Proverbe 22, verset 6. Je peux lire pour nous tous. Il est écrit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà ce que la Bible recommande, d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, les parents ont la responsabilité d'éduquer les enfants comme cela se doit, de les enseigner la parole de Dieu, de les enseigner la crainte de Dieu. Lorsqu'ils vont maintenant grandir, ils vont décider volontairement de se baptiser en signe d'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, vous parents, vous avez une très grande responsabilité. Ne pensez pas que parce que vous êtes parti faire baptiser vos enfants, vos bébés, qu'ils sont sauvés ou bien que le chemin est tout tracé. Non, c'est l'éducation chrétienne que vous allez leur donner qui vont leur permettre que plus tard, ils puissent aimer Dieu, suivre Dieu et surtout s'engager volontairement à se baptiser comme nous l'avons lu. Et dans Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Éphésiens chapitre 6, le verset 4, il est écrit: Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. La Bible est tellement claire. Il faut instruire les enfants selon le Seigneur. Et dans l'instruction, le baptême n'a rien à voir. Ils se baptiseront plus tard, lorsqu'ils vont grandir. Et en général, lorsqu'on baptise les bébés et les enfants, plus tard, on pratique la confirmation. Maintenant, je m'adresse aux prêtres, aux pasteurs, beaucoup de ceux-là qui prêchent la parole de Dieu, qui sont censés instruire les gens et monter le droit chemin aux gens. Franchement, où est-ce que nous trouvons dans la sainte parole du Dieu vivant la confirmation? Puisque nous parlons de Dieu et de la parole de Dieu. La confirmation n'est pas biblique. Il faut dire la vérité aux gens. La Bible dit que le peuple est détruit par manque de connaissances. Ce n'est pas biblique. C'est dû à avaler, mais c'est la vérité. Ce n'est pas biblique. Alors, si ce n'est pas biblique, pratiquons ce qui est biblique. Si c'est Dieu que nous voulons honorer. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 au verset 20, le Seigneur Jésus-Christ va recommander d'aller et de faire de toutes les nations les disciples, les baptisant, et surtout, après, les enseigner. Jésus a donné un ordre. Allez, prêcher l'évangile, baptiser ceux qui vont croire et enseigner. Faire de des disciples. Mais aujourd'hui, parfois, on a inversé la parole de Dieu. On enseigne les gens avant de les baptiser. Ce n'est pas également normal. N'inversons pas la parole de Dieu. Dans Acte 2, le verset 41, la Bible nous dit que plus de 3000 personnes se sont fait baptiser le jour de la Pentecôte, après avoir écouté le discours de Pierre que nous avons lu tout à l'heure. Plus de 3000 personnes. Où est-ce que ces 3000 personnes ont eu les cours de baptême en un jour? Et dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26 au verset 39, Actes des Apôtres chapitre 8, à partir du verset 26 au verset 39, la Bible nous relate la conversion de l'énuque éthiopien. Cet énuque éthiopien, le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, qui est venu en Israël en pèlerinage et qui a écouté l'évangile à son retour. Et la Bible nous dit que eux, ils étaient en train de marcher dans le désert. Subitement, ils sont tombés dans un coup d'eau. Et il a dit à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui a dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. Il a dit, je crois. Et la Bible nous dit qu'ils sont descendus tous deux dans l'eau. Et il s'est fait baptiser. Il n'a pas eu besoin de cours spécial de baptême pendant des mois ou des années. Dans l'évangile de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 3, versets 4 et 6, la Bible nous dit que Jean-Baptiste baptisé dans le Jourdain, les gens venaient confesser leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Le vrai baptême, selon la parole de Dieu, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Jésus lui-même est venu se faire baptiser. Jésus qui est le maître que nous suivons. Si Jésus est votre maître que vous suivez, imitez son exemple. Son baptême est décrit toujours dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 16. La Bible nous dit que lorsqu'il est venu pour se faire baptiser, Jean refusait carrément en disant que non, Seigneur, ce n'est pas moi qui peux te baptiser. C'est plutôt toi. Mais Jésus lui a dit, faisons ce qui est juste. Donc Jésus, en se baptisant, et surtout dans l'eau, était en train de montrer ce qui est juste. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, ce que signifie le baptême. Pourquoi c'est pas immersion? Pourquoi c'est dans l'eau? Parce que tout ce que Dieu fait a une signification. Et nous ne pouvons pas aider Dieu en quoi que ce soit. Dieu est tellement sage. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous soumettre à sa parole pour être bénis. Beaucoup peuvent raisonner, ou j'ai souvent entendu ce genre de raisonnement. Comme Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, est-ce qu'il faut dire qu'il faut aller en Israël, dans le Jourdain, pour se faire baptiser? Mais la Bible va nous dire que ce n'est pas seulement dans le Jourdain que Jean baptisait. Nous allons lire dans l'évangile de Jean chapitre 3, le verset 23. L'évangile de Jean chapitre 3, le verset 23. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, l'évangile de Jean chapitre 3, le verset 23. Jean aussi baptisé à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. La Bible nous dit que à Enon aussi, Jean-Baptiste baptisé, la Bible précise parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Donc la condition pour qu'il y ait vraiment un baptême biblique, c'est qu'il y ait beaucoup d'eau. C'est ça qui est la vérité. Parce que le mot baptême, en lui seul déjà veut dire plonger, immerger. Un bon dictionnaire définit le mot baptême comme le fait de plonger ou d'immerger quelque chose. Donc tant qu'on n'a pas plongé ni immergé quelque chose, en réalité on ne peut pas parler de baptême. Parce que ça vient du mot grec baptizing, qui veut dire plonger, immerger. Et la signification du baptême, le symbolique spirituel du baptême, nous pouvons lire cela dans Romains chapitre 6, à partir du verset 3 au verset 4. Romains chapitre 6, à partir du verset 3 au verset 4. Il est écrit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La Bible nous dit que dans le symbole du baptême, il y a l'enterrement et la résurrection. Voilà le symbole, voilà le pourquoi Dieu a ordonné le baptême. Lorsque vous entrez dans les eaux du baptême, ça symbolise l'enterrement. Et lorsque vous ressortez, ça symbolise la résurrection. Et la Bible nous dit que de la même manière que Christ a été enterré et ressuscité, quand vous entrez dans les eaux du baptême, vous enterrez la nature pécheresse et vous ressortez comme une nouvelle créature ressuscitée. Voilà le symbolique, voilà la puissance qu'il y a dans le baptême. Parce que Dieu ne peut pas ordonner quelque chose juste pour le faire. Et Colossiens va confirmer, Colossiens chapitre 2, le verset 12. L'épître de Paul aux Colossiens chapitre 2, le verset 12. Nous pouvons lire ceci. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. La Bible nous dit qu'ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc le baptême, c'est l'ensevelissement et la résurrection. Et maintenant, une question peut se poser également concernant le baptême. Est-ce que c'est possible de se rebaptiser? Oui, parce que peut-être beaucoup se sont déjà baptisés, peut-être beaucoup ont fait des baptêmes qui n'ont rien à voir avec le baptême biblique. Est-ce que c'est possible de se rebaptiser? La parole de Dieu est bien placée pour nous éclairer. Parce que je ne suis pas là pour enseigner la sagesse des hommes. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du premier verset au verset 7, nous pouvons lire ceci. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du premier verset au verset 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 19. 12 personnes qui avaient été baptisées même par Jean-Baptiste, le premier à être baptisé sur la terre, qui a baptisé également le Seigneur Jésus. Mais ces personnes se sont fait rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque l'apôtre Paul les rencontre à Éphèse, il leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils répondent à l'apôtre Paul, nous n'avons même jamais entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit, mais comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible? N'est-ce pas votre maître, Jean-Baptiste, lui-même, disait que je vous baptise pour vous amener à la repentance. Il y a quelqu'un qui viendra, Jésus, et qui vous baptisera du Saint-Esprit. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit? Et directement, l'apôtre Paul comprend qu'il a affaire à de faux croyants. Et il prêche maintenant l'évangile au nom du Seigneur Jésus. Et lorsqu'il croit, il se baptise. Et maintenant, il reçoit le Saint-Esprit. Et pourtant, ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste et même dans l'eau. Mais ils n'avaient pas vraiment cru. C'est pour dire que même si vous vous êtes baptisé, même si c'est dans l'eau et que vous n'avez vraiment pas cru, le jour que vous allez vraiment croire, vous allez vous baptiser. Si vous avez vraiment cru, mais si vous n'avez pas fait un baptême conforme à la parole de Dieu, si vous voulez honorer Dieu et sa parole, vous allez vous baptiser selon sa sainte parole. Je suis là tout simplement pour libérer la parole du Seigneur Jésus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de ses choix, de ses décisions. Mais c'est toujours important de savoir vraiment la vérité. Parce que la Bible dit que le peuple périt par manque de connaissances. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc c'est possible de se rebaptiser. Un, si vous vous êtes baptisé alors que vous ne vous êtes pas encore repenti, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait baptiser sans même savoir exactement pourquoi ils se baptisaient. Peut-être parce que les parents ont mis la pression, ou bien parce qu'ils voulaient aussi faire comme les autres. Non, le jour que vous allez vraiment vous repentir et recevoir le Seigneur Jésus, vous allez vous baptiser. Il y a beaucoup qui ont vraiment cru, de tout le cœur, mais qui n'ont pas eu le bon baptême. Si vous voulez honorer Dieu, si vous voulez être en accord et en harmonie avec la parole de Dieu, le Dieu en qui vous avez cru, vous devez également vous rebaptiser. Comme nous venons de le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous êtes toujours à l'écoute de l'heure de la vérité. Et nous sommes en train d'aborder une série d'enseignements sur les fausses doctrines. Par la grâce de Dieu, j'essaye de dire ce qui convient vraiment, ce qui est vrai à la lumière des Saintes Écritures, ce que vous pouvez vérifier. C'est pour cette raison que j'ai pris la peine au départ de vous encourager à avoir de quoi noter. Parce que c'est très très important que votre foi désormais soit fondée non sur votre religion, mais sur la parole de Dieu que vous pouvez lire, vérifier. C'est très très important parce que la Bible nous dit que chacun comparaîtra devant le tribunal de Christ pour rendre compte pour sa propre vie. Le jour où vous allez vous tenir devant le tribunal de Christ pour rendre compte, votre pasteur ne sera pas là, votre prêtre ne sera pas là. Chacun comparaîtra personnellement devant le tribunal de Dieu. Donc chacun a la responsabilité de décider pour sa vie et non quelqu'un d'autre. Dans Jean 8, à partir du verset 30 au verset 32, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. L'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 30 au verset 32. Comme Jésus parlait encore, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit bien à ceux qui ont cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole. » Donc, beaucoup de gens peuvent croire au Seigneur Jésus, mais ne pas demeurer dans sa parole. Le fait que les gens n'enseignent pas et ne pratiquent pas ce qui est écrit montre qu'on ne peut demeurer dans la parole de Dieu. Les pensées des hommes, la sagesse des hommes a pris le dessus sur la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Parce que Dieu est plus sage que les hommes. Et la Bible va jusqu'à dire même que la folie de Dieu est même plus sage que la sagesse des hommes. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus et ne pas demeurer dans sa parole. Mais si vous demeurez dans sa parole, Jésus dit que vous êtes vraiment ses disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25 au verset 27, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 5 au verset 27, nous pouvons lire ceci. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. La Bible nous déclare que le Seigneur Jésus-Christ revient chercher une Église qui est glorieuse, sainte, irréprochable. Imaginez, parce que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'époux. Et il reviendra comme un voleur chercher son épouse, selon que lui-même il a dit qu'il revient comme un voleur. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ça peut être même demain. Vous pouvez vous réveiller demain et comprendre tout simplement qu'il y a eu un enlèvement, que Jésus a enlevé son Église de la terre. Et son Église, ce n'est pas un système religieux, ce n'est pas une religion. C'est l'ensemble des vrais chrétiens nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu sur la terre. Et la Bible dit que cette Église-là est glorieuse, sans tache, irréprochable. Et les fausses doctrines souillent l'Église du Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'enseigner sur ces fausses doctrines. Parce que ces fausses doctrines-là nous souillent. Et si le Seigneur Jésus-Christ vient, nous ne pouvons pas prétendre être prêts en vivant dans le mensonge ou dans les faussetés, dans les fausses doctrines. Oui? Une Église glorieuse, sans tache, irréprochable, sainte, rien de semblable. Donc le Seigneur veut que nous mettions nos vies en règle avant qu'il ne revienne. Parce qu'il viendra comme un voleur. Et ce n'est que ceux-là qui seront prêts. Parce qu'ils auront mis leur vie en règle avec Dieu qui seront enlevés. Et après l'enlèvement, l'Antichrist va prendre le monde en otage. Oui, et tout est mis en place pour que Satan règne sur ce monde. Après l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous y reviendrons prochainement. Pour finir, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 10 au verset 20. Apocalypse 22. Nous pouvons lire ceci, à partir du verset 10. Apocalypse, le dernier livre, il est écrit. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. La Bible est claire. Jésus a dit qu'il revient bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres et que tous ceux-là qui ont retranché la parole de Dieu, qui ont ajouté, auront affaire à lui. Nous voyons que, très chers auditeurs, très chères auditrices, mesdames et messieurs, c'est très très sérieux le fait de retrancher ou de ne pas enseigner vraiment ce qui convient. C'est dangereux. Et Jésus met en garde toute personne qui essaie de retrancher ou d'ajouter la parole de Dieu. Je sais que de tels messages, les gens n'aiment pas. Je sais qu'il y a des messages qui attirent certainement les flèches. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Et nous sommes là, par la grâce de Dieu, pour vous apporter la vérité, afin que vous soyez affranchis et que vous soyez sauvés. Parce que mon désir et mon souhait, c'est que vous mettiez vos vies en règle avec Dieu. Et que si le Seigneur Jésus-Christ revient à n'importe quelle heure, que vous soyez prêts ou prêtes à être enlevés et à vous retrouver dans son paradis avec lui. Et le mensonge, nous avons vu que les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et les doctrines mensongères ne sont pas du tout bonnes pour nous, ni bonnes pour les hommes, où qu'ils se trouvent. Très chers auditeurs, très chers auditrices, par la grâce de Dieu, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Que la bonne main du Seigneur soit vraiment sur vous. Continuez à méditer profondément sur tout ce que vous avez écouté. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre série d'enseignements concernant les fausses doctrines. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot, pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00 237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.